L'île au peuplier, un feuilleton radiophonique avec un promeneur, un philosophe, une torche, une question perdue, une nuit, une balade, deux époques, un temps à contre-temps, mais surtout, et c'est important, aucune réponse toute faite. L'île au peuplier, résumé de l'épisode 8. Le jour se rapproche peu à peu. L'aube pointe son nez et la lune montre des signes de faiblesse. Une pause à la roche Saint-Joseph, une autre près de la cahute du charbonnier. Rien ne le ramène vraiment au 2 juillet 1778, juste avant de perdre pied, ainsi que sa question. Épisode 9. Le début de la fin. Les voici marchant tous deux entre la cahute du charbonnier et le château d'Ermenonville. Pourquoi prendre cette route, Jean-Jacques ? Il y aurait la possibilité de faire le tour du parc actuel, non ? Le jour se lève, Julien. Le temps m'est compté. Continuer la promenade par le parc actuel pourrait s'avérer dangereuse pour mon spectre. Que se passe-t-il pour vous lorsque le jour se lève ? Je disparais, je diminue, je m'efface. Et cela m'est chaque année plus pénible. J'aime retrouver mon tombeau avant que cela ne se produise. Mais dites-moi, au fait, vous n'y êtes plus dans votre tombeau. On vous a transporté au Panthéon, le 9 octobre 1794. Je l'ai lu dans mon guide. Certes, Julien, mon corps ne s'y trouve plus. Mais mon âme, elle, y est restée, exactement là où elle fut perturbée. Ma question perdue, Julien, est le lien, le maillon manquant qui me retient ici. Mais je dois bien dire que j'ai également ici de précieux, de délicieux souvenirs. Je me suis senti en paix ici, et pour la première fois de ma vie, moins seul. C'est une drôle de sensation, vois-tu, Julien. La solitude n'est pas une affaire de nombre, c'est un état à elle seule. Une politique intérieure, brute, que l'on entretient envers et contre soi. Notre solitude naît de nos enfermements, de nos protections. C'est en quelque sorte un héritage de nous-mêmes à nous-mêmes, une sorte de deuxième nous-mêmes qui ne demande qu'une chose, sortir. Oui, bon, effectivement, faut se manier, là. Je vous propose une chose, Jean-Jacques, on passe tout de même par le parc actuel, il est 4 heures du matin. Nous avons encore une bonne heure devant nous, à condition de ne pas traîner la patte dans la philosophie gluante, évidemment. C'est vous qui voyez, Julien. C'est vous la connexion. Si vous me dites « à droite toute », alors à droite. Toute direction, le banc des vieillards, l'hôtel de la rêverie, le temple de la philosophie. Ah, j'aime mieux ça. Il aurait été dommage de louper votre question, qui se trouve peut-être coincée quelque part entre choses oubliées et réalité de mon époque. Allez savoir, Julien, allez savoir. La nuit semblait s'allonger. L'aube, elle, semblait retenue au coin du jour. Nos deux compères n'avaient en rien résolu leur affaire de questions perdues. Mais une chose en amenant une autre, ils avaient cependant fait avancer l'horloge de leur bien-être. Un sentiment profond prenait racine en eux. Une chose que le grand Einstein lui-même n'aurait pas osé envisager s'était produite. Deux espaces-temps s'étaient rejoints. Deux visions, deux époques. Cette nuit-là, deux hommes que rien ni personne n'attendait étaient en connexion parfaite. Et ce, malgré leur dissemblance d'époque, de langage et d'engagement. Il s'était produit un arrêt sur image, mais l'image était vivante. C'était un peu comme se pencher sur un tableau de Jean-Pierre Péquignot, et que soudain les personnages se mettaient en mouvement, ne laissant au paysage que les fruits de sa peinture. Paysage idéal, où les personnages ne semblent le plus souvent qu'occupés à remplir leurs éternels otiums par les choses de l'esprit, ou en se fondant ainsi que d'oniriques architectures dans une nature rêvée où le temps, sinon l'espace, est définitivement aboli. Cette nuit du 4 juillet 2015 semblait peinte sur la même toile que celle du 4 juillet 1778. Tenez, Jean-Jacques, regardez. Voici le banc des vieillards. On voit même la grotte de Thompson, qui est censée avoir disparu. Elle est là juste devant nous. C'est comme si on avait une paire de lunettes à vision conjuguée entre deux temps. Une technologie encore hors de notre portée. Qu'avez-vous dit ? Je vous parlais de lunettes à vue conjuguée, de technologie, pourquoi ? Oui, c'est cela, une paire de lunettes. Nous étions à table et nous avions parlé d'observer les étoiles. Le marquis de Girardin avait fait l'acquisition d'une lunette astronomique. Il était en train de m'en faire l'éloge, j'en suis sûr. Voir les étoiles de plus près, voilà bien une réussite de l'inventivité des hommes. Je me souviens m'être senti tel un enfant devant l'inconnu. J'avais une peur et un désir absolu. Peut-être vous êtes-vous posé votre fameuse question à ce moment-là, Jean-Jacques ? Non, pas que je sache. J'étais seulement attiré par les étoiles. Il était midi et il me fallait attendre le soir. Oh, vous êtes crevants, vous autres philosophes. Chaque fois qu'on croit atteindre un but, il y en a toujours un autre. C'est décevant à force. Jamais vous vous dites « je m'arrête de penser pour, je ne sais pas moi, prendre le frais ou vous beurrer une biscotte ». Oui, mais en 1778, Julien, nous n'aurions pas pu nous beurrer de biscotte, puisque Charles de Berre l'inventa seulement en 1903. C'est après une journée bien remplie de travail qu'il eut l'idée de faire griller le pain invendu afin de le conserver. Merde, merde et remerde, Jean-Jacques. Pourriez-vous cesser de malaxer sans cesse ma pauvre matière grise ? Ah, même fantomatique, votre réflexion est automatique. C'est fou, ça, tout de même. Il n'y a pas un bouton d'arrêt chez vous ? Très bien, très bien. Ne vous fâchez pas. Je vais me beurrer une biscotte, si tel est votre plaisir. Bon, qu'est-ce que vous faites encore ? Je visualise ma biscotte et me concentre sur mon beurre. Vous me prenez pour un con, c'est ça ? À vrai dire, pas du tout, Julien. Je vais même vous dire, vous avez raison. Je réfléchissais trop et je n'ai malheureusement pas arrêté après ma mort. Peut-être est-ce cela qui me retient ici, encore et encore. Toujours à la recherche d'une pensée perdue, d'un souvenir oublié, d'une simple petite question de fin de matinée. Eh bien voilà, il commence à enfin sortir ses cornes, l'escargot franco-suisse. Tenez, à force de marcher, on est arrivé au banc des mers. Asseyons-nous quelques minutes dans leurs bras et faisons silence pour une fois. Après un temps de pause silencieuse, qu'aucune minute de notre espace-temps ne saurait déterminer convenablement, Julien et Jean-Jacques reprennent leur marche. Ma mère s'appelait Suzanne. Elle est morte à ma naissance. Toute ma vie durant, elle fut un manque, une case vide que j'ai essayé de remplir. Mais voulez-vous que je vous dise, Julien, c'est un puits sans fond, qu'aucun livre, aucune œuvre, fût-elle grandiose et reconnue de tous, n'aurait su combler. Je crois qu'elle m'a manqué, c'est tout. Moi qui ai tant eu à dire sur l'éducation, je ne me suis peut-être pas assez intéressé à la mienne. J'ai sans cesse creusé et agrandi ainsi le trou. Aurais-je dû le contourner, construire un pont pour le traverser ? Je n'en sais rien, à vrai dire. Peut-être, monsieur Rousseau, enfin je veux dire, Jean-Jacques. En tout cas, vos livres ont fait couler des fleuves d'encre. C'était votre destin, acceptez-le. Ne soyez pas toujours aussi consciencieux. Lâchez prise. Tenez, regardez. On passe devant la tombe de l'inconnu. Et celui-là, Jean-Jacques, j'aime autant vous dire qu'il a complètement disparu. Et ce, même en ayant une sépulture. Alors que vous, mon ami, vous en avez deux, à Ermenonville et au Panthéon, avec les grands hommes. Votre nom évoque quelque chose, même aux crétins de mon espèce. De quoi vous plaignez-vous ? Que cherchez-vous ainsi à retourner ? Vos cendres refroidies ? Serait-ce là votre dernière patate chaude ? Eh bien oui, Julien, je le reconnais. Mourir était le pas de trop vers l'inconnu, vers le vide, le rejet de soi. Car qu'est-ce qu'une âme sans son corps ? Les hommes ont inventé de nombreuses croyances pour se rassurer. Ou encore être assuré de franchir la dernière marche vers un ailleurs idyllique. C'est drôle, mais à parler avec vous, je me sens plus vivant. Je sens l'air me traverser. Serait-ce la joie qui demeure en moi ? Quoi qu'il en soit, je vous remercie, Julien, pour cette balade. Car j'aspire au moment où, délivré des entraves du corps, je serai moi, sans contradiction, sans partage, et n'aurai besoin que de moi pour être heureux. Eh bien, pour une fois, j'aurais eu le dernier mot. Pas le dernier sourire. L'île au peuplier.
Feuilleton autour de Jean-Jacques Rousseau et du parc d'Herménonville.
Un feuilleton écrit par Gontran Bodequin. Montage Frédéric Gis.
Diffusé du 6 au 17 avril, du lundi au vendredi à 9h. Rediffusion et podcast sur notre site www.radio-valois-mulsien.fr.